forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Et de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, vous venez de le vivre avec nous sur RMC. Vous êtes avec nous sur RMC toujours et sur RMC Sport News peut-être. Lyon vient de s'imposer 3-0 à Marseille avec un doublé de Cornet, avec un but de Dembélé, avec l'exclusion de Tchaletatsar également entre-temps. Cet après-midi, le match nul, un but partout entre Rennes et Guingamp. Guingamp relégué en Ligue 2 officiellement. Et puis Lille qui a battu Bordeaux 1-0 également. Rebonsoir Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Daniel, on le rappelle, qu'on retrouvera ce soir dans le RMC Poker Show avec Daniel Negreanu, la star du poker. Voilà. J'ai teasé à mort
toute la deuxième période. Il nous a teasé le RMC Poker Show.
C'est un très très grand,
mais c'est un gros coup visiblement.
Très très grand coup.
Immense coup.
Oui. Et avant ça, il y a l'after.
Exactement.
On va s'amuser un petit peu les amis
là aussi. Il y a un gros coup effectivement.
Ouais.
Bon voilà, on l'a dit, enseignement, Marseille qui ne disputera pas de compétitions européennes la saison prochaine, c'est maintenant officiel. Et puis Lyon qui prend 4 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Tout de même, c'est important, il reste 2 journées après celle-ci. Je vous donne les adversaires à venir, notamment de Lyon qui jouera à domicile face à Caen puis à Nîmes. Je vous donne les adversaires, tiens, de Lille également qui jouera à domicile face à Angers et terminera à Rennes. Saint-Etienne qui recevra Nice et terminera à Angers. Et puis Montpellier et qui jouera face à Nantes et terminera à Marseille également. On débute par les 3 points peut-être, non?
C'est
bien, c'est important. C'est d'ailleurs l'essentiel.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Tiens, bah allons-y, Daniel.
Eh ben le premier, effectivement, c'est pour dire qu'on y voit clair maintenant au classement, parce que là, tout est en train de se décanter. Il ne va guère rester que l'enjeu de la 4e place et savoir qui fait barrage dans ce championnat. Pour le reste, Lille, c'est clair. Lyon, c'est clair. Et l'OM, dans un sens négatif, c'est clair aussi. Le deuxième point, s'il va falloir un moment parler du match de ce soir, dire que le niveau technique a été très faible pour un choc de notre championnat entre deux équipes fortes, logiquement, de notre championnat. Techniquement, c'était faible, sans intensité, sans rythme. C'était vraiment pas terrible. Et puis le troisième point, je reviens sur l'OM. Pour dire que si c'est foutu pour cette année, je suis inquiet, mais ça je le dis depuis plusieurs semaines, vraiment pour la suite. Vraiment,
c'est déjà foutu pour l'hydrogène.
Il y a beaucoup de choses qui sont très inquiétantes dans ce club en ce moment.
En tout cas, supporters de l'OM et de l'OL également, on vous attend au 32-16 pour revenir sur ce match. T'es 3 points ce soir, Pierre.
Moi, j'ai mis un bravo à Lille. Voilà, on va en reparler, mais bravo à eux parce que ça a été une très très belle saison proposée par les Lillois. 2, Lyon prend une sérieuse option. Et puis 3,
sérieuse option, ils sont 3e. Option sur qui?
Sur Saint-Etienne quoi.
4 points d'avance sur les Verts.
On sait jamais, Daniel, on sait jamais. Sais quoi, tu m'as dit la même chose. Tu sais quoi, c'est mon 3e point. Et tu m'as dit la même chose. Non, mais la semaine dernière, tu m'as dit la même chose quand je t'ai dit attention, Monaco quand même, ils peuvent encore être. Et tu m'as dit ça va.
Non, et je t'ai dit
aujourd'hui, Monaco, mon 3e point, c'est dans la charrette, ça va se disputer aussi.
Je t'ai dit que même en barrage, même s'ils allaient en barrage, je voyais que j'avais quand même du mal à les voir descendre.
Oui, enfin, il peut se passer plein de choses quand tu es en barrage. Mais enfin bon voilà, une sérieuse option parce que tu peux pas dire que c'est fait pour Lyon, mais c'est une sérieuse option. Ouais.
Je vous donne mes 3 points également. Triste OM. Finalement, c'est un match qui est un peu le symbole de cette saison où une fois de plus face au gros.
C'est pas surprenant. Cool. Ouais.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est finalement à l'image de ce qu'a été cette saison de l'OM où les joueurs ont lâché le match, notamment après ce premier but. Surtout d'ailleurs après l'exclusion de Tchaletatsar. Deuxième point, Ben Arfa. On va revenir également. T'as l'impression qu'il attendait vraiment le truc, l'excuse pour annoncer qu'il resterait pas à Rennes la saison prochaine.
Ouais,
et puis dernier.
Excuse, sinon.
Dernier point. Normalement, Inch'Allah, comme disaient les Espagnols. Julien Laurent sera avec nous à la fin de cet after. Bravo à Manchester City et Liverpool. Bravo pour cette saison de Première Ligue parce qu'on s'est régalé cette saison sur RMC Sport. Et c'était la dernière journée de la Première Ligue aujourd'hui sur RMC Sport. Et donc City qui est champion. Et bravo surtout à Liverpool qui va terminer deuxième avec un nombre de points de champion. 97
c'est
points
fou.
Normal. Quoi.
Ouais, c'est fou.
C'est complètement dingue. Revenons donc sur ce Marseille-Lyon. Victoire 3-0 des Lyonnais. Doublé de Cornet, but de Dembélé. Exclusion de Tchaletatsar après d'ailleurs le premier but de Cornet, en seconde période d'ailleurs. Quelle analyse vous faites là au coup de sifflet final de ce match? Je voulais commencer par quoi?
Moi, pour revenir sur les propos de Daniel sur le niveau technique d'intensité, comme d'habitude, moi je pense qu'il faut deux équipes pour avoir un bon match et que les Lyonnais avaient des moi j'ai trouvé les premières 20 minutes intéressantes. Il y avait de l'envie, il y avait des belles choses. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que effectivement, quand t'es qu'une seule équipe sur le terrain, quasiment, c'est compliqué de faire un grand match, quoi. Et ils ont fait contrôle
parce qu'ils ont pas compris. Ça leur a suffi.
Ils marquent. Bon voilà. Alors ils sont fait un tout petit peu peur en seconde période au début, là où Marseille a poussé un petit peu, mais ça a été tellement léger que honnêtement, ce genre de match, si t'as qu'une équipe, ça peut pas rendre un match joli.
Le technique,
quoi.
C'est aussi Lyon.
Ouais, mais Lyon, je les ai pas trouvés ce soir. Je les ai trouvés bons.
Le nombre de passes ratées, le nombre de frappes hors sol.
Awar et Ndombele au milieu, j'ai trouvé que ça faisait du bon boulot ce soir.
Après, il y a un élément qui a fait. On l'a dit pendant le match que le match était pas agréable aussi.
C'était haché.
Ouais, et puis l'arbitre sifflait pour tout, quoi.
Ouais.
Et franchement, rien. Ça aide pas aussi. Et je te dis pas que c'est à cause de ça.
Souvent.
Mais ça aide pas, on va dire, à rendre le jeu fluide,
à mettre du rythme.
Très vite, on a plutôt compris que Lyon allait s'imposer parce qu'ils étaient supérieurs partout, parce que Marseille, ça fait un an maintenant, depuis que cette saison a démarré, qu'on ne comprend rien du tout à la tactique. En cours de route, le pire, c'est que ça s'est complètement délité. C'est qu'au début, t'avais quelque chose qui devait ressembler à une équipe type, mais qu'au fil des mois qui passaient, des semaines qui passaient, t'avais soit des blessés, soit des mecs.
Ouais, il y a eu beaucoup de blessés aussi. Ouais.
Mais également des mecs qui étaient en sous-perf totale. Qui était de plus en plus mauvais, un entraîneur qui a commencé à perdre pied dès le mois d'octobre, ses consignes passer la main devant la bouche. Franchement, je sais pas comment les supporters marseillais font pour pas moi j'en peux plus. Je peux plus le voir. Non, mais ça me sort par les yeux. Je te jure, ça me sort par les yeux. J'ai la nausée, j'en peux plus.
Honnêtement, Daniel,
j'en peux plus de cette main devant la bouche, genre je suis en train de passer les consignes de l'ONU là.
Allez, Daniel, si tu veux pas que les gens comprennent ce qu'on se dit, on peut faire ça aussi.
Insupportable.
Bon, sachez que Pierre Ducrot parle avec la main devant la bouche, pour ceux qui
sont ah oui, c'est vrai que c'est de la radio.
Donc il y a eu ça, il y a eu les ajustements auxquels, il faut le dire, au début du mois de janvier, on a cru.
Moi, quand il a mis les cadres un peu de côté.
Voilà, et... je dis. Mais le problème, c'est que ça a duré. Le problème, c'est que donner le coup de fouet, mettre du 109, repartir, obtenir 3-4 résultats qui te remettent dans le coup. Mais à un moment, le problème, c'est que tes cadres, ils peuvent pas être out tout le temps.
C'est que le jour où t'as besoin d'eux après, parce que les autres ne font plus le boulot.
Donc, ce qui m'avait semblé être dans un premier temps une bonne gestion, c'est un. Donc, au fil du temps, et puis après, t'as eu, l'échec Balotelli. Balotelli a mis les 5-6 buts, je sais plus à combien il en est, janvier, février. Je sais pas, mais c'est ce qu'on avait prévu.
Une dizaine de buts,
c'est ce qu'on avait prévu.
Il doit pas être loin.
C'est ce que moi j'avais annoncé. Il va arriver. Il va vouloir bien se montrer, et puis au moindre accro, ce sera fini. Il va disparaître. Parce que tu crois qu'on change vraiment sa nature profonde?
Ah non non. Là, si tu me demandes.
C'est 8 buts, Balotelli, les gars.
On ne change pas.
On est très précis. C'est vrai que sur les derniers matchs,
j'avais misé 10.
Non mais
j'avais misé 10 moi.
C'est 8 buts et c'est un but sur les 5 derniers matchs.
Voilà. Donc. Le problème, c'est qu'on sait, enfin, il l'a tellement montré tout au long de sa carrière. Encore si c'est un jeune, tu dis évidemment qu'il peut changer s'il est pris en main, l'entraîneur, le contexte, tout. Mais Balotelli, il a fait tous les contextes, les bons, les pas bons, les machins. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est pour ça que je n'ai jamais cru en ce joueur. Bon, ben voilà, là, bon, ben il est venu, il a pris un chèque énormissime pour une pige de 6 mois. C'est un échec total, évidemment qu'il ne peut pas rester, qu'il ne va pas rester. Je ne sais pas quel club va vouloir de lui.
Je sais pas où
le pizzaiolo. Ouais, au bout d'un moment, les gogos, ça court plus les rues, tu vois.
Oui, mais on va en trouver.
Non, mais attends, un mec comme lui, il va en Chine, il fait un carton, hein. Le mec, il va être super content d'accueillir un gars comme lui. Prendra de l'oseille, Raiola aura une grosse commission.
Déjà que sa carrière est un échec, mais alors là, bon, si le pizzaiolo le place quelque part, tant mieux pour lui. Mais point commun avec Ben Arfa, hein. Quand toute sa vie, on a chié sur la tête des gens, on change pas, quoi. Forcément. Bref, cette saison de l'OM qui s'achève de cette façon. Et moi, je vous dis, je suis vachement inquiet pour la suite parce qu'il y a tellement de choses à changer. Le chantier est tellement important. Il y a tellement de joueurs qui doivent partir, qui sont en bout de piste, mais tu vas garder parce que tu vas pas pouvoir t'en séparer.
Ils
ont des salaires astronomiques.
Elle est là, la difficulté.
L'oseille, il y en a plus parce que McCourt a déjà tout mis. La direction est composée de mecs qui frisent l'incompétence. Ça va être très, très compliqué pour l'OM à un moment où... on annonce pendant 4 ans une réforme où il faudra attraper le train.
Un peu comme d'habitude. Moi, je pense que les gens compétents dans ce club qui auraient dû prendre des décisions à un moment donné, que ce soit au niveau du recrutement ou d'autres choses, n'ont pas pu le faire librement. Et aujourd'hui, l'OM va en payer les frais. Voilà, c'est ça le problème. C'est que comme tu le dis, il faudrait là tourner une page. se reposer. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens compétents dans ce club, notamment Zubizarreta. Moi, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui a pas pu travailler les mains libres.
Le mec, si t'as rien fait en deux ans, moi, je veux bien.
Si on t'a pas laissé faire, Daniel, c'est pas pareil. Ouais, mais à un moment donné, il y a un contexte aussi. Tu peux pas l'écarter, malheureusement.
Oui, c'est pas imposé. Effectivement, on a donné les pleins pouvoirs à l'autre.
Okay, bah, ouais. Et le problème, c'est que là aujourd'hui,
tu vas lui demander maintenant lui de réparer les bidons.
C'est ce que j'allais te dire, Daniel. C'est ce que j'allais te dire.
Aujourd'hui, elles sont dans l'évier. T'as pas de la vaisselle. T'as rien. T'as même pas une cuisine.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on va lui dire. On va lui dire.
Tu as bouffé dans les assiettes sales pendant deux ans.
Bon bah voilà. Excuse-moi, Daniel l'a dit. Les casseroles sales dans l'évier, voilà. Zubizarreta, on va lui demander de faire la vaisselle, mais il a même plus de liquide vaisselle et de tamponnex. Voilà, c'est un peu
on
ça.
Va accueillir Marlouf, les gars, supporter de l'OM, qui était au Vélodrome ce soir et qui est parti avant le coup de sifflet final. Vous avez vu que le Vélodrome s'est vidé avant même que... le coup de sifflet final. Salut Marlouf.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à Daniel, bonsoir à Pierre, bonsoir à tout le monde.
Salut.
Ben les gars, ben je vous appelle parce que je suis abattu comme la plupart des supporters marseillais. Donc au deuxième but, on a tous presque quitté le stade en fait. Donc on regardait le match de la première jusqu'à la 90e. En fait, on avait l'impression qu'on gagnait 4-0 à la première minute. On était tous derrière. Il y a personne qui, enfin, on n'attaquait pas du tout. On a l'impression qu'on gérait le match. Après, on comprenait pas pourquoi il a pas mis ni Germain, ni comment il s'appelle, Thauvin, ni l'autre milieu de terrain, Sanson. Donc, on s'est dit, ben voilà, il faut créer au milieu de terrain, il faut faire quelque chose. Donc, je me dis, avant de parler des joueurs, c'est quand même, il faut parler de Garcia parce que on a l'impression qu'il manque d'inspiration, qu'il a plus d'idées, qu'il est fatigué, le mec.
Ça fait un moment qu'il est rincé. Hein.
Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Après, Daniel, je t'entendais parler de Balotelli. Balotelli, c'est un faux débat en fait. Avant de parler de Balotelli, je pense
c'est un débat qui vous a coûté deux bras quand même. Hein.
Strootman nous a pas coûté, Payet nous a pas coûté, Radonjic
Si tu vas par là, évidemment qu'on va être d'accord.
Mais tu sais quoi, il a pas complètement tort, Marlouf. C'est qu'avant Balotelli, t'as des trucs qui te plombent encore plus. Puisque Balotelli sera plus là.
Évidemment.
Mais t'as des choses qui plombent évidemment.
Balotelli, en fait, c'est la nana que tu ramasses à 3h du mat. Voilà, tu es content. Au moins, il y en a une qui te, voilà.
Non, mais c'est surtout, c'est la nana que tu ramasses à 3h du mat, mais tu sais qu'à la fin de la soirée, elle va se barrer. Non, parce qu'il a signé jusqu'à la fin de la saison.
Là, si vous voulez poursuivre votre analogie, c'est plutôt à 5h du mat, t'ouvres les yeux, tu vois que c'est un mec, hein.
Ouais, je suis d'accord.
Tu t'es rendu compte que t'as eu du plaisir,
tu fais ce que t'as à faire,
t'as vu que c'était un mec.
Ouais, mais si t'as eu du plaisir, à la limite,
non. Voilà. Ah, bah là, tu te démerdes avec tes.
T'as le droit de découvrir des choses aussi, dans la vie. Il y a un truc intéressant dans ce que dit Marlouf, c'est vrai, c'est que, il cite Payet, il cite Strootman, c'est des mecs qui ont des contrats à long terme. Balotelli, tu sais qu'à la fin de la saison.
Mais pourquoi je te dis que je suis inquiet pour l'OM pour les années à venir? C'est pas pour rien, tu j'invente ou quoi?
Non, mais sur le côté, tu découvres le matin que c'est un mec, je suis pas d'accord, parce que finalement, tu sais ce que t'avais dès le départ.
Ouais. Ah non, là tu savais pas là.
Oh si, avec Balotelli,
non, tu savais. Il y en a un paquet qui ont espéré que c'était Miss Monde.
Ah si eux ne savaient pas, mais nous on savait qu'il allait te marquer la petite dizaine de buts et que derrière fallait pas que ça dure plus longtemps. On l'a souvent dit. Ouais.
Non mais après l'exemple avec Ben Arfa était très juste en fait. C'est de ce genre de joueur, il joue un peu dans la saison, il joue une saison sur deux, etc. Mais nous on avait Metroglou les gars, rappelez-vous, on avait Metroglou devant. Il n'était pas. Voilà, tu ramasses.
Je l'avais complètement oublié.
Bah ouais.
Metroglou était sorti de mon esprit.
Non, Metroglou, donc nous on était tellement.
Ah, t'as vu, n'empêche, en Turquie, donc il est but, hein, il en est à 15 là déjà. Non, je déconne.
Non, voilà. Non, je me dis pourquoi.
Voilà, combien d'ailleurs,
plus,
tu sais,
les gars,
15 minutes
pour l'anecdote, en plus, je jeûnais aujourd'hui, je suis parti au stade comme un connard avec deux dates, je suis resté, j'ai faim, j'ai soif, j'ai vraiment.
Vas-y, mon vieux,
Ouais, franchement.
Donc maintenant, la seule solution, c'est que Garcia parte. Et que, bon, après, j'espère qu'il partira pas avec le chèque, j'espère qu'il démissionnera, mais ça m'étonnerait quand même. Et que les Payet, les Strootman qu'on vende, quoi. Après, mais c'est vrai que ça fait 4 ans.
Et à qui tu veux vendre ça?
Bah ouais, il y a les Chinois, on vend ça aux Chinois.
Mais les Chinois, c'est terminé, arrêtez de fantasmer sur les Chinois.
Bah ouais, ça devient plus compliqué achètent, maintenant.
Ou sinon, on les vend à Istanbul, là-bas. Donc, ils aiment bien les vieux.
Tiens, j'ai les stats de Mitroglou, les gars, ça vous intéresse cette saison avec Galatasaray. Non, mais je vous les donne quand même.
Vas-y, vite.
9 apparitions. Il a joué 289 minutes, donc titulaire 3 fois seulement, 2 buts. Voilà.
Ah ouais,
c'est pas fou, hein, mais
non, c'est
finalement,
non,
le ratio est pas dégueulasse, hein.
Ouais, bah, vas-y, passe à
toi. Une histoire de ratio.
On va éviter ce débat inutile.
Et les gars, juste pour finir, tout le monde parlait de cette victoire contre l'OL. Vous vous rendez compte, en fait, on va se réjouir d'une victoire contre l'OM.
Oui, mais parce qu'il faut toujours trouver. Champion. Non, mais parce qu'il faut toujours trouver un petit quelque chose. Et là, tu dis, vu qu'on a été bidon, si au moins on peut avoir la satisfaction de battre l'OL, parce que ça fait depuis 2014 qu'on les a pas battus, et qu'à chaque fois que vous jouez un gros, vous vous faites fesser. Donc forcément, tu te dis les petites satisfactions quand t'as rien.
Victoire sur les 18 derniers matchs.
Tu les prends où tu peux, mais même là, c'est même pas que c'était. On peut terminer sur une bonne note, c'est que t'as terminé sur la pire des notes. Tu t'es double fessé, t'as pris la 3-0 à domicile. Mon Dieu, c'est horrible.
Honnêtement, avec JC Drouet dans l'avant-match, je le sentais venir gros comme une maison. Je sentais pas cet OM là, ces joueurs là prêts à répondre à un OL qui avait besoin de prendre ses 3 points. Et enfin, j'avais dit, c'est un scénario un petit peu en défaveur et ça va lâcher complètement.
C'est que c'est plus un scénario en défaveur, c'est plus une défaite. C'est ce que j'avais dit il y a quelques mois en parlant de l'OM. Là, faut vraiment qu'ils arrêtent là, parce que on joue avec le supporter de l'OM. Là, on lui enlève de la dignité. Il peut pas se faire tarter comme ça.
On donnait la stat tout à l'heure, 13 défaites cette saison.
Non, mais là, le supporter de l'OM, il a honte. Là, faut arrêter de le maltraiter là, quand même.
Marlouf, merci d'avoir été avec nous.
C'est ça, mais je vais juste dire un dernier mot. En fait, Daniel, oui. Ça fait depuis 2007 que je te suis, depuis que j'étais étudiant, quoi. C'est depuis mes années. Donc voilà, continuez comme ça. Je vous adore. Et
merci, Rotten, c'est gentil.
Roten, il faut un peu lui apprendre le métier quand même. Hein. Des fois, il hausse le temps un peu, il te respecte pas, Daniel.
Bon. Putain, merde, il va nous l'énerver.
Faut bien lui laisser de l'espace.
Salut Marlouf et bon casse à vous les gars. Bonne soirée. Salut. Ciao. Tiens, on va écouter les gars. Bruno Genesio en direct en zone mixte, l'entraîneur de l'OL qui s'est imposé 3-0 à Marseille ce soir. Il est en cours.
Bonsoir Bruno. Bonsoir Élisée de l'Olympique Lyonnais ce soir. Est-ce que le score reflète pour vous la domination de votre équipe ce soir?
Peut-être un peu sévère, mais je pense qu'on aurait dû mener certainement 2-0 à la mi-temps. Ensuite, on a eu un petit temps faible au retour de la deuxième mi-temps où Marseille a poussé, a eu quelques situations pour égaliser. Mais je pense que sur l'ensemble du match, notre victoire est méritée, le score est peut-être un petit peu lourd.
Parce que c'est l'état d'esprit qui faut retenir de votre équipe.
Pas que, il y a eu aussi de bonnes choses dans le jeu. L'état d'esprit, c'est la base. Pour réussir un résultat positif. Mais ensuite, il faut aussi de la qualité. Ce soir, on montre de la qualité technique aussi, avec des bons déplacements, des bons mouvements. Et on a réussi à marquer 3 buts à l'extérieur, ce qui est jamais facile à faire.
Voilà, l'analyse de Bruno Genesio en direct en conférence de presse.
Il a pris,
la réaction.
Bruno.
C'est-à-dire il a appris.
Il a pris.
Ah, il a pris.
Ouh, les soucis là, ça, à mon avis, là.
Moi, je le trouve plutôt apaisé, moi.
Ouais, je le trouve plutôt apaisé, détendu, moi.
Non, il a pris, hier, il était mort de.
Oui. Et le bidon, il a pris.
Oui, d'accord, mais il est.
Non, il a.
Mais tu crois que c'est lié au stress, toi?
Ah, je pense qu'il a mangé.
Oui, il a mangé.
Il a pas donné sa part au chien à table.
Ok.
Enfin, si on me regarde pas, c'est sa vie.
Ouais.
Moi, je le trouve détendu. Il était tout sourire et en conf de presse.
Il peut être détendu.
Détendu du bide aussi.
Ouais, si. Non, mais j'ai noté.
Très bien. On accueille Mathieu, les gars, autre supporter de l'OM.
Si. Non, mais moi, je trouve pas là qu'il faut regarder. C'est pas le visage. T'as pas compris ou quoi?
Le ventre.
Oui, mais le ventre, on l'a pas vu.
Ah, si, un moment debout. Enfin.
Bon. Ouais, c'est pas très
anecdotique.
Salut Mathieu.
J'aime bien regarder les trucs.
Salut, bonsoir à tous.
Ça va, Mathieu?
Salut Mathieu.
Pas trop, non, du coup. Excuse-moi. Question con.
Alors, mais là, c'est plus possible de continuer comme ça. Là, il y a tout à refaire. Là, c'est pas possible. Balotelli, moi, j'avais appelé qu'on avait signé. J'étais d'accord avec Daniel que c'était un bon coup sur 6 mois, mais fallait surtout faire plus. Mais moi, je suis un de ses coéquipiers. Mais il se prend une tarte.
Ah ouais, non, c'est insupportable. Pour les autres, ça doit être insupportable.
Il se prend une calotte. Il se prend une calotte. Ouais. Mais il bouge ton cul. Il ne fait rien. Il ne bouge pas.
Je pense que le foot l'intéresse pas en fait. Je pense que ce mec-là est pas passionné par ce qu'il fait, ça le branche pas. Quand toute ta vie t'as été comme ça, je veux dire, c'est quoi ton problème en fait? C'est que ça te plaît pas. Mais moi je trouve que c'est déjà hallucinant.
Ça lui plaît pas, c'est que ça, il se contente de ça lui en fait.
Ouais, mais à un moment, tu vas sur le terrain, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie vu que ton métier c'est joueur de foot? Tu vas faire, où est-ce qu'il prend du plaisir dans sa vie en fait?
Mais peut-être que lui en prend comme ça. Je sais pas.
Il en prend à rester sur le terrain comme ça?
Peut-être, en marquant un but de temps en temps.
Mais tu crois vraiment?
Tu cours, t'essayes de participer. Enfin, si c'est ton taf, c'est ta passion. Lui, je sais, enfin, franchement, c'est très bizarre.
Ça serait bien de le voir à l'entraînement. Je sais pas comment il est, l'entraînement.
Il dort, il fait rien.
Je sais pas,
Mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie après?
Mais très sérieusement, t'as jamais pensé à faire une interview avec lui, lui poser ce genre de questions, justement? Moi, je trouverais que ce serait vraiment hyper intéressant. Je ne déconne pas. Mais je pense, toi qui parles italien,
moi je pense que lui n'a pas la même vision que toi de ce qu'il fait.
S'il est capable de répondre à ça, je pense qu'il a, il s'analyse pas en fait.
Oui, voilà, je pense que toi, lui n'a pas la même vision de ce qu'il fait que la tienne.
S'il est connecté au point d'être capable de lui pour lui, il dit peut-être qu'il court sur le terrain.
Enfin, je sais pas, vous êtes pas,
non mais vous êtes pas choqué comme moi. Le mec, c'est ton taf. À la limite, le mec qui est mauvais. Peut-être t'es mauvais, mais au moins tu cours et tout. Ton métier, c'est ta passion, c'est du bol. C'est comme nous, on a du bol d'avoir un métier qui est notre passion, tu sais. Bon, donc t'es passionné, des matchs t'en regardes. Donc lui, c'est son métier, c'est de jouer. Il va sur le terrain, il fait rien. Alors, il finit toujours par ne pas s'entendre avec ses coéquipiers, par s'embrouiller avec un tel, par ne pas courir, par ok, tu dis de temps en temps il met un but, donc il prend le kiff au moment où. Bon, il est arrivé à l'OM. T'as vu les déclats entre le moment où il part de Nice où il arrive à l'OM. Ça va être un public pour moi. Ça va être ceci, ça va être cela. Avec Nice, il est parti brouiller avec tout le monde. Là, personne va le regretter. C'est quoi ta vie au fond?
Où est-ce qu'il
y a du plaisir dans ta vie?
Toi, t'as une analyse.
Non mais peut-être il a pas la même.
Il serait la mienne aussi, mais il n'a pas la même.
Essaye de m'aider. Qu'est-ce que lui pourrait avoir?
Moi, je pense que lui prend du plaisir à faire ce qu'il fait là sur le terrain.
Tu penses qu'il prend du plaisir?
Ah ouais, moi je pense. Bah sinon, enfin,
je pense qu'il est.
J'imagine qu'il fera autre chose. Ah oui, il fera autre chose quoi. J'imagine.
Moi, je pense qu'il est pas. Il sait pas en fait.
Mathieu. Au-delà de Balotelli, qu'est-ce que tu retiens toi de la saison? Parce que c'est pas que Balotelli d'ailleurs, il a pas fait toute la saison non plus.
Non, il y a pas Balotelli. Ben moi, ce que je retiens, c'est que j'en veux à Garcia encore dans ses choix. Il a voulu Balotelli. Donc tu t'es au courant du style de joueur que c'est, et c'est comme quand il avait mis Trolou, tu continues à le mettre tout seul en pointe et tu mets pas Germain.
Mais parce qu'il a cru, parce qu'il a cru que lui peut-être réussirait comme d'autres. Hein, tu sais, Balotelli, il y a plein d'entraîneurs qui se sont dit non mais. Moi, je vais réussir. Tu sais, comme le gars qui essaye avec la fille qui est passée entre les mains de Toulon, là. Hein, mais moi, avec moi, elle va se poser. Et puis au bout de deux semaines, il rentre à la maison, elle est avec Roger du 5e.
Et là, moi, c'est ça.
Il y a plein d'entraîneurs. Hein. Mancini, il y a cru, prendre des lits. Il y a mille entraîneurs ont cru qu'il réussirait avec Balotelli et tout.
Non, mais c'est surtout l'arc, le contact. Et moi, là, ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que pour tout ce qu'il a rendu à Marseille, il faudrait faire une statue. Mais c'est Mandanda, c'est juste plus possible.
Ah, Mandanda, il est free.
C'est même qu'une charrette qu'il a, là. Il a des tanks accrochés derrière lui.
Je vais vous dire, je pense pas qu'il soit free, Steve. Je pense qu'il est, il a lâché cette saison. Et que s'il se remet au boulot, il pourra devenir important. Moi, j'en suis persuadé.
Je pense qu'il a d'autres occupations dans sa vie.
L'occasion, là, de Memphis, là, mais quand il sort, mais une demi-heure trop tard. Mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Ouais, non, mais je te dis pas qu'il est bon en ce moment. Hein. Je te dis que moi, je pense qu'il a lâché parce que dans le merdier qui est celui de l'OM.
J'espère, parce que c'est un joueur que j'adore et c'est un mec que, voilà. On sait tout ce qu'il représente pour Marseille. Il nous a sauvé, il nous a rapporté plus de points que tous les joueurs réunis.
Oui, puis partout, là, c'est un sacré, c'est un bon mec, quoi. Mais moi, je pense qu'il a lâché parce qu'il voit justement tout ce qu'il y a autour et qu'il ne marche pas. Et voilà, je pense que c'est un garçon s'il se remet sérieusement au boulot dans un contexte un peu plus serein.
Et Mathieu, dis-moi,
il a toujours son potentiel.
Toi qui es supporter de l'OM, on a vu beaucoup de banderoles assez hostiles vis-à-vis de la direction. Il y aura pas de Coupe d'Europe une fois de plus la saison prochaine. On le disait tout à l'heure. Hein, si on compte la saison prochaine, ça fera trois sur six saisons, ça fera trois saisons sans Coupe d'Europe. Comment tu te positionnes par rapport à ça, toi,
c'est la faute des dirigeants en premier. C'est la faute des dirigeants en premier. D'avoir donné les pleins pouvoirs à Garcia, le recrutement qui a été fait, on dit qu'il n'y a plus d'argent, mais il y a eu quasiment près de 100 millions d'euros qui ont été claqués depuis qu'ils sont là. Mais pour les joueurs qu'on a, non, mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs? Schroutman, pourquoi l'Ironman nous l'ont laissé partir? Il savait qu'il était cuit avec son problème de genou. Payet, il est venu, il a fait 6 mois de sa vie. Bon, c'était en Angleterre. Et la seule chose que j'étais content que l'air signe à Marseille, j'avais appelé en disant que c'était une erreur de le reprendre, je m'étais dit, il va nous mettre des coups francs. Il a mis deux coups francs et un coup franc qui était dévié, qui n'a pas fait exprès.
À moi, Payet, c'est dès sa signature, hein, je me suis fait malmener là-dessus, mais parce qu'il les a quand même fait. Attends, il faut dire que l'année dernière, il y a quand même eu quelques matchs où Payet a été bon, mais le problème, c'était que dans le ratio, tête de gondole du nouveau projet, prix du transfert, salaire étalé sur le nombre d'années de contrat.
T'entamais déjà bien le truc.
En fait, ça ne pouvait, même, imagine que même si l'année dernière, il avait fait encore mieux que ce qu'il a fait, et honnêtement, on peut dire que c'était plutôt une bonne saison. De toute façon, t'étais perdant par rapport à tout ce que ça t'avait coûté sur la durée du contrat et tout. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et puis, en plus, on sait que de toute façon, il te fait au mieux 8 mois, quoi. Et vraiment, quand c'est son année magnifique, hein. Sinon, rien, quoi. Sinon, c'est parti.
Non, mais là, les dirigeants, c'est catastrophique. C'est l'autre qui vient et qui vous parle de FIFA, faut mettre des buts de loin. Les buts qui sont dingues, ça coûte double. Mais, tais-toi, ferme ta bouche un peu et travaille sur le recrutement au lieu de dire des conneries comme ça. Mais on met des présidents qui connaissent pas le football, qui connaissent rien.
Oh, t'inquiète, c'est pas le seul club. Hein. Il y a un club qui a des millions en caisse et qui a une tripotée d'incompétents à la direction.
J'en profite, Mathieu. Tiens,
ils ont de l'argent.
Mathieu, puisque tu parles de FIFA justement du jeu vidéo, juste petit teasing également pour mardi. On fera une spéciale Lyon et e-sport également. Il y aura Jérémy Lopez, vous savez le comédien, l'acteur qui avait écrit une lettre à Jean-Michel Aulas qui sera avec nous.
Comédien de la comédie française.
Mais lui, il n'a rien à voir avec le e-sport.
Non, mais il y aura Bruce Granek. Il y aura Bruce Granek qui sera avec nous également. Alors lui, qui a été plusieurs fois champion du monde de FIFA et PES, qui sera également avec nous en direct dans l'after. Ce sera mardi.
J'ai battu une fois.
Ouais, mais pas FIFA ni à PES quoi. Ah bon, poker,
le mort.
Mais quoi, il dormait? Il dormait, tu lui attachais les mains.
Tu lui jouais avec une seule main.
Bon, Mathieu, merci d'avoir été avec nous.
Est-ce qu'il y a moyen de gratter un t-shirt ou pas?
Attends, je demande à Jérôme Thomas.
Ce serait grave cool.
Tu veux lequel?
Ah, il y a lequel? Il y a lesquels de dispo?
Il y a le caca, tu annules. L'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Il est pas mal, celui-là, ouais.
Celui-là.
Allez.
Yes.
Eh ben écoute, ouais, vu le contexte, c'est important. Ouais. Merci Jérôme Thomas. Merci beaucoup. Ne raccroche pas du coup. Merci. Bonne soirée à toi, Mathieu.
Ils font 3e, c'est bon. Ils l'ont leur
Ligue des Champions. Allons-y.
Non, mais pour Lyon, dire qu'en dans le même week-end, alors que la semaine dernière on disait si bascule il doit y avoir, ce sera le week-end prochain, victoire de Saint-Etienne et Lyon accroché par Marseille, tu vois, ça pouvait faire 3 points d'un côté, 1 point de l'autre. Bah la bascule, elle s'est opérée, mais dans l'autre sens.
Moi, je pense qu'ils sont, ils sont encore très prudents ce soir.
Non mais
moi je te le dis.
Non mais
moi je te le dis.
Écoute, peu importe.
Il y a eu tellement d'occasions cette saison.
Non mais peu importe. Hein, moi je suis pas un coup de fouet. Donc je vais m'avancer que Lyon va faire 3 maintenant. C'est bouclé.
Tu vois, pour oui, à deux journées de la fin, tu peux t'avancer un peu.
Les gars, en direct, on va l'écouter. Rudy Garcia, il est en ce moment même en conférence de presse.
Déception. Les concurrents feront attention. Beaucoup de cette frustration et de cet énervement de pas en dire trop ce soir. Voilà, on va féliciter les Lyonnais. Qui ont su gagner ce match. Je pense que pour nous, le tournant du match, c'est l'expulsion de Tchaletatsar. On était, à mon avis, trop timoré en première période. On manquait un peu de vitesse et de profondeur. Par contre, on a très très bien attaqué la deuxième période et pendant 15-20 minutes, on a eu un temps fort suffisant pour égaliser. On ne l'a pas fait et ensuite réduit à 10. C'est devenu très très compliqué. Voilà mon analyse de la rencontre.
Qu'est-ce qui fait que votre équipe déjoue quelque peu sur ce match-là alors que la pression est plutôt sur les épaules de Lyon
C'est ce que je leur ai dit à la pause, qu'il fallait se lâcher. Je nous ai trouvé un peu timoré en première. Et encore une fois, on manquait un peu de solution devant. Quand Flo Thauvin est rentré à la pause, c'était mieux en deuxième période. Après, il n'a pas voulu débuter, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, donc on savait que... Il nous aiderait en cours de match. Il a fallu le lancer un peu plus tôt que prévu, mais encore une fois, je pense qu'on méritait d'égaliser. Ça aurait été un autre match, mais c'est comme ça. C'est un peu l'image de notre saison pour pas en dire plus.
Bonsoir Rudy. La saison est compliquée. Quand on est entraîneur de l'OM, comment on vit les dernières minutes quand on voit la colère des virages comme ça?
Ben, on est mécontent soi-même, évidemment. Voilà, on voulait gagner ce match-là. On a pris un but. Je préfère garder l'adjectif que j'ai en tête pour moi sur le premier but qu'on a pris parce que c'est une première période qui est plutôt équilibrée, il s'est pas passé grand chose, on a eu les meilleures situations, mais au moins on a essayé de revenir en deuxième avec beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de course, beaucoup plus d'envie. Et puis on a malheureusement pas su égaliser, l'occasion de Mario, la frappe contrée de Luis, voilà, faut aussi un peu de réussite dans ces moments là donc Et après, encore une fois, à 10 contre 11, je pense qu'on peut mieux faire que ce qu'on a fait. Ça sert à rien de courir partout et notamment d'aller presser très haut pour montrer qu'on a envie. Il vaut mieux réfléchir et être mieux disposé un petit peu sur le terrain et se battre à 10. Voilà. Bon, j'avais dit que j'en dirais pas plus, donc je vais m'arrêter là.
Voilà, Rudy Garcia, sa réaction donc à chaud après la défaite ce soir 3-0 face à l'OL. On rappelle Marseille qui avec ce résultat, eh bien, ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Lyon qui compte 4 points d'avance sur la 4e place et sur Saint-Etienne. On va parler
de l'OL. Mais là où il a raison, c'est que oui, pendant à l'entame de la seconde période, pendant un quart d'heure, 20 minutes, oui, Marseille a été entreprenant et s'est créé des occasions. Mais le souci, c'est pourquoi une mi-temps t'es à ce point hors sujet. Et après, effectivement, quand tu te retrouves à 10, il y a moins de possibilités, mais c'est trop peu, en fait. La séquence, elle est trop courte.
Oui,
et surtout, ensuite, c'est tactiquement. Je comprends pas comment l'OM joue. Je comprends pas comment les lignes sont à ce point espacées. Évidemment, vu que devant, ça presse pas du tout et qu'il se passe rien.
Bah voilà, t'as la réponse.
Les mecs au milieu se prennent tout dans la tronche.
T'as la réponse, ils décalent tout.
Voilà, en fait, tout est foutu en l'air. Il y a pas d'équipe, en fait.
Analyse de l'OL dans quelques secondes. Supporters lyonnais, on vous attend 32-16 après cette victoire 3-0 à Marseille. À tout de suite avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo, les résultats de ce dimanche, 36e journée de Ligue 1, partout cet après-midi entre Rennes et Guingamp. On va aborder le cas Ben Arfa dans quelques instants. Guingamp qui, avec ce résultat, est officiellement relayé en Ligue 2. Lille qui a battu Bordeaux 1-0. Et puis, vous l'avez vécu avec nous ce soir. Lyon vient de s'imposer 3-0 à Marseille. Un doublé de Cornet, un but de Dembélé. On a beaucoup parlé de l'OM, messieurs. Parlons un petit peu de l'Olympique Lyonnais également, qui a donc ses 4 points d'avance sur la 4e place et sur l'AS Saint-Etienne, qui est sur une belle petite série, finalement, l'OL, là, en ce moment. Ils sont pas mal, les Lyonnais. Ils ont fait leur match, même si c'était pas un grand match, encore une fois.
Écoute, Lyon, même sans faire un grand match, a tout fait mieux que l'OM. Il y a plus de qualité technique, il y a plus de bons joueurs, il y avait plus de volonté, et il y avait la juste gestion de la pression inhérente au match qui voulait qu'ils prennent 3 points sur le rival Saint-Etienne sur cette journée. Il y avait, dès le départ, on les a sentis concernés,
oui.
Et Lyon, comme à chaque fois cette saison,
quand ils sont vraiment concernés,
ils devaient être impliqués dans un match. Souvent ils étaient dans le coup. Après, une équipe capable de plus les bousculer les aurait certainement mis en danger là, comme l'OM l'a fait sur le premier quart d'heure de la seconde période. Vu que Marseille a pas été assez précis, c'est pas venu. Ils ont géré tranquillement leur affaire, les Lyonnais. Il y a plus de qualité technique au milieu, derrière. Lopez a fait le show comme d'habitude. Bon, écoute, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de la qualité de Lyon, si ce n'est que pour moi, ils sont troisième ce soir, et voilà.
Pierre.
Ouais, non, mais pareil, on a parlé de ça aussi avant le match. Qui a le plus la pression, les Olympiens chez eux, avec le public derrière, finir la saison en battant Lyon pour ça, pour rattraper un peu la... Enfin, moi, ça, j'y crois pas du tout. À un moment donné, t'as des Olympiens qui ont lâché depuis longtemps. Et de l'autre côté, t'avais un Lyon qui avait l'occasion de se mettre dans une position très confortable pour la fin, même si moi, j'attends un petit peu. Parce que Lyon nous a aussi prouvé, comme tu dis, Daniel, que très souvent, quand il fallait faire le taf et qu'ils étaient concernés au début du match, ils sont au-dessus des autres. Mais sauf qu'ils nous ont aussi très souvent cette saison confirmé qu'ils pouvaient passer au travers au moment où il fallait pas.
Mais
c'est pour ça que j'attends cette fin.
Pour ça, il faut aller les bousculer. Pour ça, il faut aller bousculer.
Ouais. Là, tu vas avoir un camp qui va jouer sa peau, par exemple.
Alors c'est quand et dernière journée, c'est à Nîmes. Hein. Et pour Saint-Etienne, ce sera
contre Nîmes. Et un Nîmes qui peut, un Nîmes, tu vois, dans son truc où c'est des joueurs qui vont vers l'avant, qui vont chercher, qui risquent encore rien à perdre.
Il y a quoi? Il y a 3 points. Il y a 4 points d'avance. 4 points d'avance.
Faut rester prudent
sur 6 possibles.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi.
Imagine,
il y a plus de chances qu'il soit à la bonne place.
C'est quand même très compliqué.
Je suis d'accord.
Quand même très compliqué. Et c'est pour quand, pour le coup, que c'est compliqué sur ce match-là où Lyon peut définitivement boucler sa deuxième place. Je les vois pas passer au travers, quoi. Je les vois normalement. C'est samedi prochain, c'est fini, quoi.
Pourtant, il y avait aussi.
Sauf que quand tu sais quoi, un match nul accroché à Lyon peut leur suffire.
Oui, oui, bien sûr.
Il y a plein de scénarios.
C'est ce qu'ils joueront. Hein.
Ouais.
Et pourtant, il y avait certains absents hein, du côté de Lyonnais. On rappelle, il n'y avait pas Denayer notamment. Tété aussi était absent pour ce match. Il a un peu dit bricoler. Morel, Jeannot le rappelait pendant le match. C'était un match en 2019.
Denayer, ok, et après
bon, Tété.
Mais qu'ils ont fait longtemps.
Il a fait jouer. Il a fait jouer. Mais il manquait Denayer.
Denayer, oui, c'est plus.
Mais Tété, il a joué plus de matchs que Morel cette saison, c'est ça que je veux dire.
Après, Morel, dans un match comme ça, je veux pas dire qu'il était tranquille, mais voilà.
Pour jouer là,
c'est un joueur suffisamment avec suffisamment de compétences pour s'en sortir ce soir. Ouais.
Exactement. Ah, bon, le match de Fekir encore une fois.
Ouais.
Tant que ça s'arrête, tant que ça se termine, je sais pas du tout ce qui va se passer avec
Fekir. Il a une occasion, il peut vraiment mieux faire aussi d'ailleurs.
Même Memphis a pas été bon ce soir.
Il est lent Fekir.
Ah mais Memphis,
il avance plus Fekir.
Mais Memphis, je suis pas d'accord, il a créé pas mal de choses.
Il se crée des occasions mais bon.
Ouais, mais même dans la dernière phase, il a essayé.
Il y a bien plus chez Memphis que moi.
Ouais,
Fekir, je sais pas, pareil, on parlait des des soucis. Bon, certes, ils sont beaucoup beaucoup moins grands à Lyon parce que la base est bien plus solide, mais il y a beaucoup, enfin nos trois clubs phares se préparent des soirées.
Alors nos trois clubs phares, c'est qui quand tu dis PSG, Lyon,
nos clubs avec les moyens qui rassemblent le plus de monde derrière, quoi. Paris,
PSG, Lyon et
Marseille. Se prépare des soirées à discuter de l'avenir,
ouais, pas facile.
Compliqué, et il va falloir ne pas se tromper. Lyon, c'est l'entraîneur, c'est leur capitaine. On le garde, on le garde pas. Est-ce que l'entraîneur va vouloir le garder, sachant sa forme et sachant ce qu'il t'impose tactiquement sur le terrain?
Et attends, et je rajouterai
qu'est-ce
un truc.
Qu'est-ce que tu vends au milieu? Qui tu prends?
Je rajouterai un truc dont, puisque tu parles là des gros, alors, on est d'accord, PSG, Lyon, Marseille. Moi, je rajouterais même Monaco. Il y a un truc qui unit ces clubs cette saison.
Eux, j'en parle même pas parce qu'avant, il faut attendre.
Il y a un truc qui unit ces clubs cette saison aussi et qui se passe plus en coulisses. Mais c'est un peu la crise institutionnelle finalement. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de capitaine là-dedans. La présidence, la communication, tout ce qu'il y a autour, c'est compliqué dans ces clubs-là.
Nico, mais tout vient de là.
Ouais.
Tout vient de là. Cherche pas. Je veux dire, tout ce qu'on a vu en Coupe d'Europe cette année, aussi bien en Europa League qu'en Champions League, montre à quel point j'ai presque envie de dire que les mecs sur le terrain. C'est au bout de la piste, quoi. Quand t'as tout bien travaillé avant,
c'est le top de la pyramide.
Les mecs sont dans l'épanouissement, et même des mecs, surtout on l'a vu
dans l'épanouissement ou dans le don de soi aussi.
Voilà, on l'a vu cette semaine. Bah, des types ont brillé cette semaine. Nos trois clubs dont on parle ne les auraient peut-être même pas voulu si on leur avait donné au mercato de l'année dernière.
Il y en a même certains qui étaient dans ces clubs-là.
Oui, évidemment. Donc c'est dire si d'abord
ouais bien sûr
fais
la tête quoi.
Cimente ta maison, mets les bonnes briques, fais tout ce que tu veux et puis après à l'intérieur
c'est un ancien dirigeant du Barça qui a écrit un livre qui s'appelle comment gagner des matchs de foot qui s'appelle Ferrano, qui d'ailleurs aujourd'hui travaille pour le groupe de Manchester City, et il a un système justement qu'il explique, un système pyramidal. Il dit voici comment le Barça fonctionne, alors en tant qu'association mais aussi en tant que boîte qui fait du business, parce que comme si c'est une association il y a un business, et il y a cette pyramide avec en bas donc les sociaux et qui sont les clubs, la direction, et puis effectivement tout en haut tu retrouves les joueurs qui sont finalement le dernier maillon de tout ça, quoi.
Eh oui.
On accueille Anthony, supporter de l'OL, qui était au Vélodrome ce soir d'ailleurs. Bonsoir Anthony.
Bonsoir à tous.
Il y a un mec qui sort du Vélodrome et qui est content ce soir quand même.
Très heureux, mais par contre beaucoup de peine pour les supporters marseillais, parce que la vérité, j'étais au stade, il y avait des gens avec des familles et ils ont vu ça, le stade il a chanté pendant quasiment la totalité du match, sauf à la fin bien sûr. Mais ça m'a fait la peine, parce que j'ai l'impression vraiment que les joueurs, ils sont pas au niveau de leur public. Voilà, moi, franchement, je trouve qu'à Lyon, on a quand même un beau public. Mais à Marseille, ils en ont aussi un très, très beau. Et ça me fait de la peine de voir des joueurs qui sont très faibles dans les duels, très faibles dans l'engagement. Franchement, je comprends pas pourquoi ils y vont pas. Bon, moi, je suis content parce que je suis supporter lyonnais. Mais c'est, je veux dire que c'est comme ça aussi qu'en France, on n'y arrive pas en Europe. Quand on joue des matchs où les duels, ils se jouent à deux à l'heure, où il n'y a pas d'engagement, et ben la vérité, je comprends qu'on réussit pas en Coupe d'Europe.
Bah évidemment.
Ouais.
Voilà. Évidemment, t'as tout.
Y a rien.
Bien sûr, y a pas d'intensité, pas de rythme.
Donc même au stade, t'as pas kiffé.
Les mecs en Ligue 1, en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la passion. T'as l'impression que, je sais pas, ça les botte pas, quoi. Ça les intéresse pas d'être à fond. T'as l'impression qu'ils ont peur de se fatiguer. Ils ont le chèque à la fin du mois. Le steak est bon. Le steak est sur la table. C'est tout, quoi. T'as pas envie de te défoncer. T'as pas envie, quoi. C'est la Ligue 1, t'as pas envie.
Ils sont tous à jouer ensemble. En France, les mecs, ils font une heure d'entraînement, 30 minutes de rigolade. Ils ont rien à péter des duels. C'est n'importe quoi.
Mais exactement.
Non. Je peux pas vous dire ça, les gars. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Non, moi, je peux pas vous laisser dire ça. T'es pas, en France, t'es pas une heure à l'entraînement. Non, je vais te le dire tout de suite.
Et franchement, ça sert
pas. En temps effectif, peut-être.
Les grosses écuries de la Ligue 1 de voir des matchs comme ça.
Pierre, vas-y.
Non, je peux pas vous laisser dire ça. C'est, l'entraînement en France, c'est pas une heure et on rentre à la maison. C'est pas ça du tout. Et c'est pas que de la rigolade quand même. C'est plus profond que ça, parce que sinon, ça serait beaucoup plus facile à régler. Je pense qu'il y a il y a effectivement une part de vérité dans ce que tu dis, où on a culturellement certains problèmes à régler. Et dès la post-formation, parce que je le répète, en France, on a une très bonne formation, mais c'est quand on arrive à ce niveau de post-formation où les jeunes basculent dans le monde pro, où là, on leur donne beaucoup très vite, et où là il y a beaucoup de problèmes, et tu les retrouves après tout au long de la carrière de ces jeunes-là.
Mais comment t'expliques alors certains, qu'un match comme celui-ci qui est censé être
c'est beaucoup plus global que ça, malheureusement le souci, on peut pas juste résumer ça à, les mecs s'amusent une demi-heure à l'entraînement, c'est pas vrai. Les mecs, ils sont, malheureusement, j'ai presque envie de te dire, mais ils sont 4 heures ou 5 heures aussi dans les centres d'entraînement, comme en Angleterre ou comme en Allemagne. C'est juste qu'à un moment donné, déjà il y a un problème économique où les clubs pour garder leurs joueurs sont obligés de céder à des caprices, très souvent sont obligés de de céder à beaucoup de choses. Et ça, déjà, au niveau de l'éducation, de la post-formation, ça te met dans l'embarras, parce que les joueurs, tu ne prends pas parfois les sanctions qu'il faudrait prendre, tu ne les fais pas jouer alors que tu les fais jouer alors que parfois il faudrait les sanctionner, ne pas les faire jouer pour leur apprendre. Sauf que tu peux pas le faire, sinon les mecs ils se barrent. Voilà, et t'as pas les moyens de les retenir. Donc c'est beaucoup plus global le problème, mais il y a un souci. Alors comment le régler? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il faudrait reprendre le problème à zéro. Pas facile pour ces clubs-là. Moi, je dis pas si facile que ça, malheureusement.
Anthony, juste un truc pour parler un peu de ton OL aussi. Alors bon, la troisième place est pas loin d'être assurée. On rappelle 4 points d'avance sur la Saint-Étienne.
Attention à Caen quand même, qui joue le maintien. Et
toi, t'es flippé aussi justement.
Ouais, je suis d'accord.
Ben, je suis pas flippé, mais je veux dire, ils ont un regain de forme là en ce moment avec Coach Courbis et tout. C'est pas facile à jouer. Ça va pas être simple. Après, on se déplace à Nîmes. On a placé un petit pion là-bas avec Jordan Ferry. C'est pas mal, mais c'est pas. Faut rester sur nos gardes quand même, je pense. Faut rester sur nos gardes. C'est pas fait encore. C'est pas fait, mais c'est vrai que ce soir, on respire beaucoup plus que la semaine dernière déjà.
Merci d'avoir été avec nous, Anthony.
Avec plaisir.
Bonne soirée, bon retour, Anthony.
Et super émission, continuez comme ça.
Merci Anthony, merci. Salut Anthony, bonne soirée, bon retour.
Bonne soirée.
Soyez prudent sur la route, bien entendu. Tiens, petit déclat également de Jean-Michel Aulas, qui a concédé une interview au JDD. Alors, il s'est exprimé sur la gestion du cas Genesio et notamment l'annonce de son départ. Je cite le président de l'Olympique Lyonnais. Il y a sûrement quelque chose que j'ai mal fait, car ça ne s'est pas bien passé, mais je ne sais pas encore quoi. On a été transparent, peut-être trop, mais c'est ma manière de faire. Avec Bruno, on s'est mis d'accord pour annoncer que si on ne se qualifiait pas pour la finale de Coupe de France, ça paraissait difficile de rester. Si on gagnait, on l'annonçait, dit-il en parlant de la prolongation. Mais c'était soumis à une place sur le podium. Voilà, explication donc de Jean-Michel Aulas à cette fameuse annonce du départ de Genesio. C'est vrai que bon, on parlait tout à l'heure de la communication un peu ratée.
Ah, mais du coup, t'avais deux deadlines qui étaient pas compatibles, quoi. La troisième place, tu savais pas encore si tu voulais l'avoir, etc.
Le teasing n'avait pas été bon non plus, parce qu'il avait dit.
La victoire en coupe arrivait bien avant, ou la défaite.
En tout cas, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, ce qui lui importe, lui, c'est d'avoir chopé la place en Ligue des Champions et. Je pense qu'il est déjà dans la préparation de la saison prochaine. Genre ça, là, j'ai lu l'interview, il est revenu là-dessus. À la limite, on s'en fout un petit peu aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il se gourre pas sur le prochain entraîneur et le recrutement, il est déjà dans l'année prochaine. Hein. Maintenant, cette saison-là, c'était ce soir, quoi. Il fallait gagner ce match. Saint-Etienne a perdu, eux ont gagné, ils y sont en Ligue des Champions. Tant mieux pour eux.
Dans quelques instants, on va revenir sur l'une des autres affiches de ce dimanche, le match entre Rennes et Guingamp à but partout, Guingamp qui est relégué en Ligue 2. On va surtout revenir sur les déclarations d'Atem Ben Arfa à l'issue du match, alors qu'il s'en est pris au public du Roi Zone Park, qui s'en est pris également au style de jeu, au jeu de son équipe. Il est même d'ailleurs en mode réflexion par rapport à son avenir, Atem Ben Arfa. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Pierre Ducrot et Daniel Riolo, les dernières affiches de la 36e journée de Ligue 1. Il n'en reste plus que deux avant la fin de la saison. On vient de l'évoquer, la victoire 3-0 de Lyon face à Marseille ce soir. Marseille qui ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Lyon qui est troisième avec 4 points d'avance sur la AS Saint-Etienne. Lille qui a battu Bordeaux 1-0. Et puis autre résultat, c'était le premier d'ailleurs de ce dimanche. Le match nul, un but partout entre Rennes et Guingamp. Rennes qui a marqué le premier avec ça à la 15e minute de jeu. Égalisation de Mendy dans toute fin de match. Guingamp qui est relégué avec ce résultat. Cette fois, c'est officiel. Les Guingampères redescendent en Ligue 2 la saison prochaine. Alors, sale série pour Guingamp, bon, qui descend en Ligue 2 certes. Huitième match en victoire également pour Rennes. Ça n'a pas très fort en ce moment pour le Stade Rennais, qui a quand même remporté cette Coupe de France, qui a eu ses belles perfs également en Coupe d'Europe. À la fin du match, Atem Ben Arfa était très remonté face à la prestation de son équipe et face au sifflet du public rennais. Écoutez-le.
On joue à domicile, on joue contre les derniers. On a une belle équipe. Il faut qu'on nous transmette des choses pour aller attaquer, pas pour défendre notre but à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Le groupe a été très fort dans l'état d'esprit et dans la qualité. Mais à un moment donné, si tu veux passer un cap et tu veux continuer à progresser, tu peux pas te permettre d'avoir cet état d'esprit pour aller jouer les matchs. Tu vois, il faut se regarder droit dans les yeux. Il faut que même vous regardez pourquoi on est 13e aujourd'hui. C'est pas pour rien. Écoutez, après ce qu'on a fait et tout ça, qui siffle. Je peux juste leur dire merci. Il n'y a pas de problème. Merci après tout ce qu'on a fait. Ça faisait 48 ans qu'ils n'avaient pas eu une coupe. Ils n'ont jamais passé de. Alors, ils n'ont jamais vécu une épopée européenne comme ça et qui siffle comme ça. Écoute, ce que je peux dire, c'est merci. Ces matchs-là et puis ces autres matchs me permettent d'avancer aussi dans mon cheminement parce que je suis orienté par le jeu. Et ce qu'on nous propose, c'est niveau jeu, c'est limité quand même, donc ça m'oriente. Et puis même aussi, c'est vrai que quand on se, à la fin, on se fait siffler aussi, ça joue aussi. Hein. C'est sûr que c'est des, quand on fait une décision, c'est tout un contexte. Donc il y a plein de choses qui font faire que je vais voir ce que je vais faire l'année prochaine.
Voilà, la sortie d'Atem Ben Arfa donc à l'issue de ce match nul. Alors il s'en prend un peu à tout le monde hein, finalement Atem Ben Arfa qui avait été sifflé au moment où il avait été remplacé. Il s'en prend au style de jeu de Julien Stéphan également. Comment vous réagissez là quand vous entendez cette sortie d'Atem Ben Arfa?
Il y a qu'une chose qui me choque en fait sur le fond qu'un joueur dise on n'a pas avec les compétences qu'on a, avec les qualités qu'on a, avec les joueurs qu'on a, on aurait dû faire mieux, on aurait dû mieux jouer au football, on aurait dû peut-être gagner plus de matchs, ça me choque pas parce que c'est être franc à la limite et dire les choses de façon transparente. Sauf que pour dire ça, quand en plus t'es celui qui doit à mon avis être le plus fort au niveau technique, au niveau du jeu, il faut être irréprochable. J'ai pas l'impression qu'il l'ait été très très souvent non plus. J'ai pas l'impression qu'il ait été au-dessus du lot. Alors apparemment lui ce qu'il veut dire c'est que Rennes, l'entraîneur, le schéma, ses collègues, je sais pas moi. Mais ont pas de projet de jeu et c'est beaucoup trop défensif et pas assez ambitieux et que ça colle pas avec lui, avec ce qu'il a envie, avec ce qu'il veut et le football qu'il doit pratiquer. Putain, je sais pas, mais avant de le balancer comme ça, je sais pas, parle avec tes collègues, parle avec ton entraîneur et vois ça avec eux, parce que moi j'ai pas trouvé. Alors oui là, les dernières semaines de Rennes sont plus compliquées parce que je pense qu'il y a eu une vraie décompression après la victoire en coupe, mais avant ça j'ai pas eu l'impression moi toute l'année de m'ennuyer avec le jeu rennais quand même. Ça a pas été les pires en Ligue 1 quoi. Je sais pas hein, mais si ça manque d'ambition à un moment donné, c'est peut-être parce que les joueurs qui sont les dépositaires du jeu dans des équipes comme ça font pas ce qu'il faut et il en fait peut-être partie.
Daniel.
Il y a beaucoup de choses hein, dans ce que dit Ben Arfa.
Il n'y a pas que des bêtises hein, sur le fond.
Énormément de choses. C'est très 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 intéressant. Et j'ai toujours pensé qu'il serait un bon consultant plus tard. Mais il sera peut-être là avec nous, hein, qui sait, un jour dans l'after. J'y crois assez. Par quoi je commence? Sur le fond, la valeur d'une victoire, ça dépend beaucoup du contexte. Et à Rennes, évidemment, cette victoire en Coupe de France, elle a valu énormément.
Les fameux 48 ans en senti dont il parle.
À tel point qu'on n'a pas vu qu'en championnat, c'est une catastrophe. Parce que c'est une catastrophe. Rennes est 13e. Et Rennes, contrairement à ce qu'on a dit, parce que l'euphorie de la victoire a fermé les yeux à tout le monde à Rennes, et c'est logique. Parce que je le répète, quand t'as pas gagné les deux matchs de Coupe d'Europe et une victoire en Coupe de France, bah c'est l'équivalent de la Ligue des Champions pour le PSG. Et c'est l'équivalent du titre de champion pour le PSG qui ne vaut rien pour les supporters. Donc le prix d'une victoire, quand on parle tout le temps de la victoire, c'est ce qu'il y a de plus important.
Ouais, tout est relatif, quoi.
C'est le contexte qui fait qu'une victoire est importante ou pas. Parce que quand t'as gagné beaucoup, bah finalement ça vaut bien. Donc ça a mis un voile sur tout le reste. Mais la saison en championnat, elle est nulle. Et Stéphan en championnat, c'est moins bien que la Mouchy. Et Stéphan, c'était pas du beau jeu, loin de là, contrairement à ce que j'ai entendu. Et quand je l'ai dit, on n'a pas forcément compris. Mais Julien Stéphan, c'est pas football champagne.
Sauf que tu ne peux pas dissocier les deux, Daniel. Enfin, tu peux pas dissocier Coupe d'Europe, le parcours en coupe et le championnat dans un effectif où t'avais pas forcément de quoi faire ces trois compétitions-là.
En championnat, tradition France, estampillé Julien Stéphan. C'est ça, ce qu'on a vu. Ben Arfa a raison de le dire. C'est comme ça.
Et en coupe,
c'est quoi? C'est pas entraîneur nouvelle génération. Mais en coupe, ils ont fait quoi? Ils se sont fait marcher dessus sur la finale. Ils ont gagné au pénal.
Ils ont fait
deux secondes.
Ah, ils se sont fait marcher dessus, sauf qu'ils sont revenus.
Non mais
ils sont revenus dans le match, Daniel.
Ils leur ont donné le match.
En seconde période.
T'es pas d'accord? Ok, moi mon avis, c'est qu'ils
en
se sont
coupe
fait
d'Europe,
manger.
Ils font des matchs aussi quand même, des matchs intéressants.
En coupe d'Europe, enfin, ils se sont sublimés dans l'état d'esprit pour faire l'exploit au Bétis.
Non mais ils sont sublimés sur un match en plus.
Ils sont sublimés sur ce match.
Ils n'ont pas fait qu'un match pour arriver là, quand même.
Non, mais
ils ont fait quand même quelques matchs en Europa League qui étaient pas dégoûtants pour en arriver là.
Contre Arsenal, quand les mecs en face sont réduits à 10 et tout, et après ils se sont fait corriger au retour.
Je te dis pas que c'était les meilleurs de la Ligue Europa, sinon ils auraient été au bout, mais finalement, c'est pas dégoûtant.
Finalement, il y a eu l'exploit plein d'état d'esprit en contre à Séville.
Ouais.
Ok? Bon, voilà. Alors après, je répète, quand t'as rien eu, ça semble énorme. Mais sur le fond là-dessus, Ben Arfa, il a raison.
Vous êtes assez d'accord là-dessus, finalement.
Oui, alors ensuite, sur le fond, on peut être d'accord. Après, moi, c'est plus la forme et son rôle là-dedans, c'est sa responsabilité
problème,
là-dedans.
Évidemment, le problème, c'est que là, s'il parle comme ça, comme d'un consultant, ok. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la personnalité de ce mec. On parlait de Balotelli tout à l'heure. Je veux dire, quand t'as trahi un jour, tu trahis toujours. Ben Arfa trahit toujours tout le monde. À part lui-même, peut-être. Il sera peut-être un bon consultant, mais c'est un gars, faut faire très attention quand tu lui fais confiance. En 5 minutes, il met tout par terre, le mec. L'entraîneur, il nous fait jouer en plus. Et en plus, il vend quelques consignes. Quand tu demandes de défendre plutôt que d'attaquer alors qu'on joue le dernier, mine de rien, il balance un peu sur Stéphane. Je suis pas sûr que l'entraîneur va beaucoup apprécier ses propos. Il avait balancé, il reprend la porte dans la gueule de j'ai bombé le torse, j'ai fait le mariole en envoyant sur Nasser après la finale de la Coupe de France. Genre moi, mes dirigeants et ses dirigeants sont tombés dans le panneau. Olivier Létang, qui l'a également un peu mauvaise par rapport au PSG, qui est donc également dans un sentiment de revanche au soir de la finale. Ils sont là, ils se gargarisent, machin, machin. Bah aujourd'hui, cher Olivier Létang, Ben Arfa, il vient de te la faire à l'envers comme il la fera toujours à tout le monde. Parce qu'il a toujours fait
ouais,
ça.
Mais si tu,
alors, et
si
il va te la faire.
Si tu
et
dis,
il te la fera.
Ouais, mais alors pourquoi il l'a fait à l'envers si tu dis qu'il a raison sur ce qu'il dit, complètement, entièrement?
Parce qu'il a
raison. Finalement, il dit que la vérité pour toi alors. Sauf qu'il a pas le droit de la dire.
C'est un consultant.
Ouais, mais
c'est pas un membre de l'équipe alors.
Moi, je vais un peu plus loin
c'est
que toi.
C'est un vrai problème.
C'est alors ok quand t'es joueur, t'as pas le droit de tout dire parce qu'à un moment donné, c'est des choses que tu dois dire à ton coach ou à tes collègues dans le vestiaire.
Et toi, il y a peut-être des choses de ta famille que tu sais et tout. Tu vas venir nous les balancer à nous?
Non, certainement pas, Daniel.
Et ben voilà.
Pas à toi.
Et ben voilà, Pierre.
Non mais, yeah, non, moi je pense. Moi.
Et tu penses pas qu'il a une part de responsabilité aussi dans cette dans le jeu rené, etc.
Mais qui te dit le contraire?
Non, non, parce que tu le disais pas, parce que tu disais juste qu'il a pas le droit de le dire, mais qu'il a raison sur tout.
Non, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'en fait, son propos, il faut presque le chapitrer.
Ouais, c'est ça.
C'est, il y a beaucoup de trucs. Et que lui, évidemment que lui aussi, sur le terrain, est-ce qu'il a toujours été bon?
Mais est-ce que lui, il a pas...
La fameuse finale de la Coupe de France qui met fin à la disette de 48 ans.
Il est transparent.
Il est à chier.
Mais est-ce qu'il a pas...
Et le deuxième but, il est pour sa gueule, une transversale de merde. Lui, monsieur le beau jeu, monsieur, je me pose une question. Je vais peut-être pas rester ici parce qu'ici, ça joue pas bien. Mais dans quel club tu vas aller? Où est-ce que ça joue au football? Et on va voir de toi.
Et puis parfois les coachs s'adaptent aussi quand ils ont des joueurs comme qui défendent pas.
Alors,
ils sont obligés d'équilibrer.
Puisqu'on parle du jeu, Daniel,
tout est intéressant dans ce qu'il
dit. Justement, finalement, Rennes ça joue pas comme j'aimerais. Mais
ça joue les gars.
Est-ce que lui, il a pas une part de responsabilité?
Mais oui, mais bien sûr.
Le jeu était aussi adapté.
Bien le dire. Sur le terrain, c'est quoi sa forme physique? Pierre a raison. Il est dans quel état quand il joue? Est-ce parce qu'il fait trois dribbles et qu'il a fait trois exploits cette année? Mais ça va. Depuis 2007, depuis qu'il a commencé, on sait qu'il est capable.
Il sait faire ça, oui, bien sûr.
Mais c'est rien ça. C'est pas le haut niveau, c'est pas ça.
Tiens, Benjamin, un supporter de Rennes, a fait le 32-16, il est en direct avec nous dans l'after. Il veut intervenir également.
Supporter de Rennes, tu viens de prendre un...
Sur cette sortie.
Sur
les supporters, j'arrive même pas. Vous pensez qu'il est, ironique quand il dit j'ai juste à leur dire merci? C'est
pas
ironique.
Oui.
Il est pas sérieux quand il dit moi j'ai juste à leur dire merci parce qu'ils ont vécu quelque chose de génial.
Il est ironique.
Oh mince.
Il est ironique. Salut Benjamin.
Salut messieurs. Comment ça va?
Et toi alors?
Bah écoute, moi ça va, j'ai pas de saut de pipi sur la tête, contrairement à ce que dit Daniel, mais non, ça va. Ce que je disais hors antenne, c'est qu'en gros, est-ce que c'est décevant un peu? Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. En fait, faut déjà contextualiser l'arrivée de Ben Arfa à Rennes. Ben Arfa, il arrive en septembre, alors qu'il peut arriver beaucoup plus tôt. Il arrive hors de forme, parce qu'il voulait prendre ses vacances avant de re-signer pour un club pro. Donc déjà, il avait aucun respect pour l'institution, et en soi...
Mais il en a jamais eu nulle part.
Mais voilà, et puis même, j'ai beau aimer mon club... Je sais que le Stade Rennais ne représente rien à ses yeux, comme auprès de dizaines et de dizaines de joueurs, et c'est tout à fait normal. On reste un petit club. Maintenant, ça c'est dit, faut être très lucide par rapport à sa saison qui est moyenne. On a voulu positionner à tout prix poste plutôt de 10, alors qu'on aurait pu mettre un mec comme Clément Grenier qui avait fait une très bonne pige à Guingamp en 10. Donc, non, c'était un...
Ah, tu lui as déroulé le tapis rouge.
Franchement, moi, écoute, je dis, c'est bien fait pour les footix qu'on floquait le maillot Ben Arfa 18 à Rennes cette année. Et puis moi, je vois pour l'année prochaine, il sera plus là, c'est très bien. On va pouvoir reconstruire une équipe collective. Là où on parle d'institution, là, c'est l'occasion de le montrer. Merci, les deux derniers matchs.
Là, Olivier Létang, il va falloir qu'il le montre, là.
Mais tu vois, Létang, il avait dit un truc où je suis peut-être pas trop d'accord avec toi, c'est qu'il avait senti le truc venir quand même. Et en interview, il y a une semaine de ça, il avait dit... Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Et je pense que Létang avait déjà volontairement un peu ouvert la porte à un départ de Ben Arfa.
Oui, non, mais ça, tu as raison. Je pense qu'il ne le découvre pas. Létang est un type intelligent. Je pense qu'il avait, il l'a vu avant dans sa carrière, Ben Arfa, et puis au PSG aussi. Voilà, mais il y a tellement une gens qui l'ont défendu pour ses prises de position, même par rapport au PSG. Il a raison d'aller au clash, il a raison de faire ci, il a raison de faire ça. Il avait raison de rien du tout. Son comportement n'était pas professionnel. Vas-y, Ben Arfa, il sera excellent en consultant. Et quand il sera là, qu'on parlera foot, tu vois, il sera certainement bon.
Mais bon, pour l'instant, il n'est pas consultant.
Voilà.
pour avoir été souvent au stade, je peux dire que dans l'année, il n'y a aucun lien d'affect qui s'est créé entre Ben Arfa et les supporters.
Tant mieux.
Contrairement à d'autres, tu vois, un mec comme Bourigeaud a été adopté hyper vite. Bon, c'est bien.
Je comprends, Benjamin, parce que c'est un très bon gars et un bon joueur.
Voilà, mais parce que l'humain, tu le vois, on n'est pas.
Bah
après, je suis.
Ah non, mais si tu me dis que personne n'a été dupe, bah alors on est d'accord.
Non, mais t'en as qui ont 15 ans. Mais t'en as, c'est des gars qui ont 15 ans, qui ont 18 ans, c'est les supporters FIFA, si tu veux.
Ouais, d'accord, je comprends. Oui, mais ça, il y a les mêmes dans tous les clubs, ça.
Il y a les mêmes dans tous les clubs. Non, mais l'intérêt, c'est le. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon club, parce que le club reste, voilà, le projet pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, on va construire un effectif où les mecs attaqueront et défendront à 11. Et là, avec Ben Arfa, c'est un peu comme Balotelli, vous parliez à Marseille en début d'émission. Bah, tu savais très bien que t'as un poids mort, c'est un handicap.
T'es obligé de t'adapter à ça.
Tout comme Fekir peut être un handicap à Lyon, mais bon, ça, c'est un autre débat aussi.
Est-ce que finalement, à Rennes, il leur faudrait pas un joueur comme Flavien Thé, Pierre?
Ça, c'est Jérôme Thomas qui te l'a soufflé dans l'oreillette.
Non, mais après, l'histoire retiendra que l'énorme disette des Rennais s'est arrêtée l'année où Ben Arfa était au club. Voilà, ça, ce sera inscrit dans les livres. Et effectivement, maintenant, il faut passer à autre chose.
Un petit mot également, les gars, sur Guingamp. Côté Guingampais, bon, le président Bertrand Desplat, forcément, a fait un petit bilan de la saison. Et forcément, là aussi,
bah, c'est difficile
pique.
Le bilan.
Bah, ça pique.
Mais il est petit.
Globalement, on a vécu une saison qui s'est apparentée à un long chemin de croix. On n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que on est à notre place. Le sport a rendu son verdict et on mérite de descendre. Je dirais que cette journée marque certainement la fin d'un cycle. Un cycle qui a été exceptionnel, de 10 ans de grands succès pour le club, de joie immense. C'est le temps aujourd'hui de rebâtir, de reconstruire et de repartir à ce qu'on aime bien au club. C'est au combat, tout simplement.
Voilà, et donc on le rappelle hein, officiellement, Guingamp sera en Ligue 2 la saison prochaine.
Écoute, franchement, Guingamp, c'est un club qui est assez solide, hein, qui a depuis qu'il est apparu aux yeux du grand public en 95 à peu près là. A connu la Ligue 1, est redescendu jusqu'en National.
Ah, mais ils sont remontés. Tu sais combien de temps ils ont mis pour remonter?
Oui, mais
9 ans, je crois.
Oui, je sais.
Ça peut être long, hein, des fois. Ça peut être même un club qui, effectivement, je te rejoins, qui a des structures,
mais ça fait partie
etc.
de leur histoire.
Oui.
Et dans leur histoire, qui est quand même celle d'un tout petit club, il y a deux Coupes de France sur les 10 dernières années.
Déjà, ouais.
Moi, quand je vois les petites villes, tu sais, on sait qu'il y a un lien.
Mais peu importe, Nico.
Tu vois, les Auxerre, les Lens, c'est compliqué structurellement pour ces clubs-là, le tissu économique.
Mais même s'ils remontent dans 10, 15 ans ou qu'ils remontent pas, mais Guingamp, de toute façon, c'était déjà une histoire quasi surnaturelle. Pour une ville de même pas 8000 habitants. Déjà, c'était complètement fou d'avoir un stade aussi grand, d'avoir eu des très bons joueurs. Ils ont vu l'Europe.
D'avoir joué l'Europe, parce que
ils ont gagné deux Coupes de France.
Leur chance, je pense, c'est qu'ils vont pouvoir garder pas mal de leurs joueurs, là.
Mais peut-être pas l'entraîneur.
Et peut-être faire le.
Peut-être pas l'entraîneur.
Ah, si, il l'a annoncé. Bien, pas dit, apparemment.
Les structures sont solides. C'est un chouette club. Les gens sont, même si Desplat, il a déconné, là, dans l'histoire du fameux match, là, où on va se terminer comme Angers. Une sale blague. C'est un peu con.
Mais. Bah, c'était d'ailleurs une sale blague.
Ouais. Mais il a bien géré son affaire.
Il y a un vrai centre d'entraînement maintenant.
Voilà,
ils
descendent. C'est dans l'histoire de ce club. De redescendre, de remonter. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prétendent à quoi? Une toute petite ville comme ça. C'est formidable, déjà, l'histoire de ce club.
Les gars,
je suis supporter de Guingamp ce soir. Forcément, t'as de la peine. Tu chiales un bon coup, mais après, tu dis,
mon club,
il est formidable.
En plus, ils ont eu le temps de s'y préparer. Les gars, il nous reste 3 minutes avant l'RMC Poker Show et Daniel Negreanu, bien entendu, la star du poker qui sera en direct dans l'RMC Poker Show dans quelques minutes. Un petit mot sur Lille, quand même, qui a battu Bordeaux 1-0 cet après-midi. La deuxième place qui est quasiment assurée. Il faudra vraiment un cataclysme au niveau du goal average pour que ce soit pas le cas. Alors, Bordeaux qui a terminé encore un match à 10, ça fait 3 matchs sur 6 qui terminent.
C'est quoi ton ami pour la chouche?
Il prépare la saison prochaine.
Ah oui, bah là, il s'est rendu compte du nombre de bras cassés qu'il y a dans l'équipe, là.
Je t'assure qu'ils s'en sont rendus compte.
Ah oui, parce que là, il y a du boulot.
Je peux dire
mais comment tu renouvelles tout un effectif, là, parce qu'il y a
avec peu de moyens, c'est surtout ça le problème.
Il y en a 80% à mettre à la poubelle, là.
Ouais, ouais. Mais cela dit, ils bossent déjà depuis un moment, les mecs. On va juste écouter Christophe Galtier.
Une grosse benne, il va lui falloir.
On va écouter, sans jeu de mots.
Le problème, c'est que tous les clubs doivent se débarrasser de tout le monde, quoi.
On va juste écouter Christophe Galtier, alors qu'il a dévoilé le cheminement de son équipe sur cette saison exceptionnelle. Il est revenu sur le début de l'aventure. C'était à la saison, c'était au Portugal et il a rendu hommage à son directeur sportif, un portugais.
Tout ça pour nous parler de ça.
Après le premier match amical contre Reims, et je m'en souviendrai je crois toute ma vie, une réunion s'était imposée, puisqu'on avait fait un match amical tellement nul et pourri que une réunion s'était imposée dans ma chambre au Portugal avec l'ensemble de mon staff technique et médical. Pour vite trancher dans le vif et ne pas perdre de temps. Et on n'a pas perdu de temps. 24 heures après, on était rentré dans le vif. J'avais demandé à tout le monde de retrousser les manches et de travailler et d'amener leurs compétences et leur caractère et leur détermination auprès de ces joueurs-là et de ce groupe. Et ça a démarré là. L'aventure a démarré là-bas. Même si le groupe a été fortement modifié, que les gens ne se trompent pas par rapport à ce que je peux lire, ce que je peux entendre, le groupe a été fortement modifié. Et ce groupe-là, c'est la réussite de Luis Campos.
Voilà la réaction de Christophe Galtier. Il y avait beaucoup d'émotions. Ça a été forcément célébré, cette victoire de Lille, qui terminera très certainement deuxième donc à l'issue de cette saison. C'est intéressant d'ailleurs ce que dit Galtier. C'est vrai qu'on a tendance à dire il y a une certaine continuité par rapport à la saison dernière. Non, Galtier le rappelle, il n'y a pas du tout de continuité au fait. Hein. Ils ont dû tout refaire les mecs, quoi.
Oui, bon, là, on l'a dit. Qui disait qu'il y avait une continuité?
Il a lu, il a entendu, etc. Donc voilà.
Mais il va parler.
Non, il avait commencé à dicter la manière.
Il nous parle à nous.
Non mais je sais pas.
Non, au mec qui dit ça, Nico.
Je l'ai pas forcément entendu ça qu'il y avait une continuité. Lui est arrivé à commencer à montrer la manière dont il allait falloir travailler avec lui, mais effectivement il y a eu des gros changements.
Pour en parler de la Gage Connection.
Je vous jure que c'est.
C'est du propre.
C'est Jérôme Thomas qui nous a parlé de ça. Je vous rappelle une petite info également. Quart de finale de l'Euro U17, la France qui a cartonné la République Tchèque 6-1, qui a qualifié pour les demi et qui affrontera le vainqueur du match entre l'Italie et le Portugal. Ce sera demain à 17h. Quart de finale de l'Euro U17.
Demi-finale intéressante.
Aouchich, qui a claqué 9 buts en 4 matchs, hein, pour l'équipe de France. Un bon petit joueur, le milieu off du PSG d'ailleurs. Ouais. Bon petit jeune qui est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, bah, merci les gars.
Vous voyez, c'est un jeune, il a quoi, 17 ans?
Ouais.
Il va falloir le signer pro. Parce qu'il a cartonné,
Surtout ce qu'il faut pas faire.
Bah oui, mais t'es obligé.
Je vous rappelle les résultats de ce dimanche. Rennes Guingamp un but partout. Guingamp relégué en Ligue 2 avec ce résultat. Lille qui a battu Bordeaux 1-0. Et puis Marseille qui s'est incliné à domicile 3-0 face à l'Olympique Lyonnais. Marseille qui ne disputera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Lyon qui est troisième avec 4 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Lille qui est deuxième avec 6 points d'avance sur Lyon avec une bien meilleure différence de but. Et puis Rennes 12e d'ailleurs, même disait 13e, mais ils sont 12e les Rennais. Merci Pierre Ducrot. Daniel Riolo, tu restes avec nous. Le RMC Poker Show arrive avec
la légende
Daniel Negreanu. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je prends un accent roumain quand je le dis. Il est de quelle origine?
Il est moitié roumain et moitié canadien.
Daniel Negreanu. Ouais. Merci madame, merci au revoir madame, à demain. Bisous.
L'accent canadien, j'ai fait mieux.
Ouais. C'est vrai, à tout de suite, slow avec l'RMC Poker Show.
RMC. L'After Foot.